Le terme « futur » est de plus en plus associé au mot « angoisse ». L'éco-anxiété, c'est un mot qui sonnait étrange au début, mais aujourd'hui, ça fait partie de nos vies, surtout celles des jeunes. C'est pas simple de se projeter dans le futur et d'imaginer comment on va composer avec les changements climatiques, les nouvelles technologies ou même les communications qui deviennent presque juste numériques. La bande dessinée arrive à être un terrain de jeu pour nos questions, nos inquiétudes, nos angoisses, parfois avec beaucoup de noirceur, mais souvent avec compassion et espoir. La création d'histoires et d'univers visuels du futur force la réflexion actuelle qui est tellement nécessaire. C'est en démystifiant l'univers de demain qu'on arrive à repenser celui d'aujourd'hui. Je m'appelle Catherine Emmanuelle Brunet. Je suis passionnée de BD et je vous présente Ligne de fond, un balado qui explore avec deux BDistes de deux continents différents la place de la bande dessinée dans nos sociétés. Ligne de fond.
La science-fiction, ça a été un genre comme une découverte, en fait, hein, pour ce livre-là. C'est pas quelque chose que j'avais pratiqué dans mes bouquins d'avant et c'était pas ma porte d'entrée principale, en fait, par rapport à cette histoire.
Benjamin Adam est auteur de bande dessinée de la France qui a déjà publié ici au Québec aux éditions La Pastèque avec son album L'Artigues et Prévert. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'au-delà des récits réfléchis, il arrive à maîtriser le rythme de lecture avec une approche graphique hyper méticuleuse. Dans Soon, un de ses plus récents projets avec le co-auteur Thomas Cadden, il mixe les codes du documentaire et ceux de la science-fiction dans un récit d'anticipation du futur.
Je pense que la science-fiction, c'est vraiment excellent pour être un lentille à regarder notre vie de maintenant avec un point de vue de temps en temps étonnant. Je pense que ça donne aussi aux lecteurs la chance de faire réfléchir à notre vie d'une façon un peu différente.
Originaire des États-Unis, François Vigneault est aujourd'hui établi à Montréal. Il est le co-créateur de la série jeunesse 13e Avenue aux éditions de La Pastèque. Il est aussi l'artiste de la nouvelle série « Orkin Space ». Son œuvre est profonde et habile, surtout dans « Titan », un album où les enjeux de classe sociale émergent dans un univers futuriste, sensible et humain. Benjamin, François, merci beaucoup d'être là pour parler du futur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Dans vos deux œuvres, on est avec des personnages fondamentalement humains. Pourquoi ce choix? Pourquoi garder la trame humaine?
Moi, ce qui m'intéressait avec Thomas Cadden, donc avec qui on a écrit Soon, c'était vraiment beaucoup plus de parler de gens qui se débrouillent avec un monde qu'ils comprennent pas toujours, et surtout de voir à quel point, en dialoguant et en se promenant sur leur territoire respectif, ils pouvaient réussir à mieux se comprendre et à mieux interagir avec ce qui se passait autour d'eux. Donc pour nous, il a jamais été question de faire des robots géants ou s'il y a des presque navettes spatiales, c'est vraiment un besoin plus qu'une envie première, quoi.
On est en 2151. Soon, c'est la mission de Simone. Simone, c'est une femme qui a dû réfléchir à son monde de demain à la suite d'une grosse catastrophe où on ne savait plus si on allait pouvoir vivre sur la Terre ou pas. Il y a des zones qui se sont créées. En fait, l'univers entier a été divisé en 10 zones distinctes. Et la mère Simone va décider d'aller plus loin dans son projet et même d'aller explorer ailleurs que sur la Terre pour voir si on pourrait pas poursuivre cette espèce de mission dans un autre environnement. Sauf que son fils Yuri, il est à la fleur de l'âge et il sait pas nécessairement s'il va suivre sa mère ou pas dans cette mission, s'il va l'appuyer. Parce que non seulement il y a des réticences à l'intérieur de la famille, entre la mère et le fils, mais il y en a aussi dans la société dans laquelle ils vivent. Et c'est pas tout le monde qui appuie Simone, la mère de Yuri. Alors, Yuri va aller à la recherche de ses réponses à ses multiples questions sur son monde, sur l'univers dans lequel il vit. Il va découvrir les zones, le monde tout divisé, mais il va aussi découvrir les archives puis l'explication de comment on en est arrivé là en 2151. Est-ce qu'il va finir par appuyer sa mère puis appuyer la mission Soon, ou il va décider de se sortir complètement de cette espèce de structure de demain?
Demain. « 2151, désert de Louisiane, zone 4. »
Bon, on aurait pu prendre le train.
On est aussi bien en haut. Ça va plus vite.
On va voir le mémorial, alors ?
Oui, je voudrais que tu le vois.
C'est encore irradié par ici. Faudrait pas avoir un accident.
Encore 500 km et on est tranquille.
Andrea, vous pourriez venir voir ?
Je ne comprends pas cette note.
Pilotage auto désactivé. Approche imminente.
Merci, hein, pour ce dernier voyage. Tous les deux.
Estandarde!
Arrivien, Yul!
Simon Jones! C'est un honneur! Bienvenue! Bienvenue, Simon Jones!
Le voyage était bien?
Oui, merci.
Je suis Pax. Je suis chargé des conseils du mémorial. Voilà mes amis de conseil, Yaria, Recep, Ernest et Yul.
Je vous présente mon fils, Yuri.
Fils? Minou, minou. Avance. Ici, les gens vous soutiennent. Mais c'est partout pareil. Toujours il y a des mécontents.
Votre bracelet.
Arrêtez les frais.
Ah, toujours la même chose. Arrête ton suicide, reviens sur terre.
L'espoir, il est ici, Simon.
Bref, Simon. Bref, si tu veux.
Alors, qu'est-ce que t'en dis?
C'est le mémorial. Oh.
Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'est très intéressant, des histoires de science-fiction qui touchent beaucoup à notre vie de maintenant. Et j'aime beaucoup l'aspect de science-fiction qui c'est une extension de notre vie, de nos histoires dans l'avenir. Donc, par exemple, dans mon livre Titan, notre présent, c'est le passé pour des personnages. Et moi, j'aime des liens comme ça, des liens vrais avec l'histoire, la société, etc. Et surtout, la connexion humaine.
Dans Titan de François Vigneault, on est en 2192. Les humains, en essayant de trouver une solution pour exploiter davantage les ressources, ont transformé l'ADN des humains pour en faire des titans, des gens qui sont plus grands, plus forts, capables d'exploiter de façon plus rapide les mines. Le personnage principal, João da Silva, qui est un humain, va aller à la rencontre des titans pour essayer de négocier avec eux et de faire en sorte qu'ils vont produire encore davantage de ressources, toujours dans une idée de capitalisme. Mais il va faire la rencontre d'une titan, Phoebe McIntosh, qui va lui ouvrir les yeux sur la réalité d'être titan et sur toutes les questions de classe sociale et d'inégalité qui existent entre les humains et les titans. Ils vont décider de s'allier ensemble pour faire en sorte que les relations entre les humains et les titans s'améliorent. Sauf qu'il y a un chef syndical qui va avoir d'autres plans et qui va créer une véritable révolution dans cet univers de titans. À quel point c'était important et essentiel d'avoir, par exemple, une histoire d'amour entre deux personnages, ou dans Soon, c'est une histoire de relation mère et fils qui s'installe. Pourquoi ça, c'était essentiel de ramener ça à une relation plus humaine?
Pour moi, c'est la relation qui est comme le centre de mon histoire. C'est sans cette histoire, je sais pas si je vais avoir l'intérêt de suivre juste une histoire de révolution ouvrière sur la Lune des Titans. C'est assez intéressant, mais ça manque quelque chose s'il n'y a pas comme des deux personnages principaux et leur relation entre eux.
Ouais, moi, c'est la même chose, mais c'est d'ailleurs assez marrant parce que quand on a tout le temps qu'on a passé à réfléchir à Soon avant de l'écrire, on a passé, je pense, 3 ou 4 bons mois à uniquement se poser la question du monde dans lequel vivraient nos personnages. Et on a poussé le truc aussi loin qu'on pouvait, aussi parce qu'on se faisait un peu aspirer, quoi, par l'étendue presque infinie des questions qui pouvaient se poser. Comment vivront les gens dans 130 ans? Qu'est-ce qui s'est passé entre leur présent et notre présent à nous? Il a vraiment fallu qu'on ait poser tout ça pour que on arrive à s'en détacher et que des personnages émergent. Évidemment, c'est ça qui a donné du sens, mais moi, j'ai déjà lu que dans la science-fiction, une des raisons qui peuvent faire que ça ne marche pas, c'est quand les auteurs, finalement, n'arrivent pas à se détacher de cette envie de simplement faire se promener dans un monde qu'ils ont créé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait en tête aussi, puisqu'à la fois, on était très excités d'arriver à un moment à avoir quelque chose qui nous semblait crédible, fonctionner, cohérent en tout cas. Et en même temps, il ne fallait pas que ça s'arrête à ça. Sinon, ça tient pas à la lecture. Ouais, c'est une histoire d'empathie, quoi. C'est ce qui fait qu'on a envie de tourner les pages, je pense.
Wuhan, c'est ici que le laboratoire P4, où l'on cultive les virus les plus dangereux du monde, a été construit. Au cours du siècle à venir, la température de la planète va continuer de monter. Là, les chroniqueurs envisagent l'envoi de têtes nucléaires sur les plus grandes villes d'Europe, dont Paris.
Est-ce que, quand on réfléchit à demain, puis on fait la liste de qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, ça inclut automatiquement une critique d'aujourd'hui?
L'envie directrice, c'est vraiment justement d'essayer de, à la fois d'être lucide sur ce qui est en train de se passer, sur les menaces et les périls assez divers qui nous encerclent, on va dire, et à la fois de faire l'effort de se demander de comment les choses pourraient tourner moins pire que prévu, quoi. De construire un futur qui découle de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, ça nous semblait logique, en fait.
C'est certainement mon intention de critiquer des choses que moi je vois dans notre présent, mais aussi dans le passé, de mettre ça en perspective dans un certain sens, comme comment on a des exploitations des ouvriers dans le passé ou aussi maintenant, comment des gens sont racialisés dans le passé, mais aussi au présent.
Black lives matter because you're killing black people.
Est-ce que c'est aléatoire, cette temporalité où vous vous êtes réellement imaginé quand est-ce qu'il y a eu l'apocalypse, puis après combien de temps on s'est reconstruit?
Nous, on s'est quand même vraiment demandé combien de temps prendraient les choses. Il y a évidemment une part d'aléatoire, mais une fois qu'on avait un peu cette base d'effondrement, on s'est demandé à partir de combien de générations les choses seraient à peu près en place, suffisamment pour que la génération qui suit ressemble à la nôtre aujourd'hui. Le fait que notre génération à nous soit déjà suffisamment loin, par exemple d'événements comme la Seconde Guerre mondiale, pour que la mémoire ne soit plus si précise, et donc que possiblement des horreurs de cette époque-là puissent ressurgir, ça nous intéressait pour l'histoire qu'on voulait raconter.
Moi, mon histoire, c'est vraiment plus petit, mais comme eux, j'ai vraiment pensé, OK, je veux une station sur le Titan, je veux un genre d'effondrement sur la Terre. Ça va prendre combien de temps? Et moi, j'ai comme calculé, OK, ça va être 200 ans, parce que je veux que c'est pas comme juste complètement aléatoire. Mais aussi, le date de 2192, c'est aussi un rappel d'un événement réel dans l'histoire. C'est le Homestead Strike. Donc, c'est un événement où des ouvriers sont comme fait un strike et s'est battu à grand nombre par des policiers. Donc, c'est aussi pour faire un petit rappel de ça.
Benjamin, il y a comme eu une décision de vouloir non seulement raconter l'apocalypse, mais raconter aussi chacune des étapes entre aujourd'hui puis le monde de Soon. C'est beaucoup d'années, ça se lit super bien, la trame fonctionne bien, mais j'imagine que ça a été complexe, puis je veux t'entendre là-dessus, sur jongler entre s'assurer que les gens vont comprendre, mais donner le maximum d'informations aussi dans cette trame narrative.
Eh ben, c'est sûr que c'était tout le défi, et c'est ce qui fait que certains éditeurs qu'on a contactés au début n'ont pas cru que ça fonctionnerait, notamment. Pendant longtemps, j'ai jonglé un peu avec cette idée de faire un récit double comme ça, qui soit à la fois un récit fin du monde, comme je l'appelais à ce moment-là, et à la fois un récit spatial. Cette piste, donc, dans le livre, c'est sous la forme de ces pages sombres, qui prennent la forme et les codes du documentaire. Qu'on connaît par cœur, en fait, qu'on a tellement intégré que ça donne déjà un vernis de réalité, en fait, y compris quand on l'utilise pour de la fiction. D'une part, on voulait pas raconter un effondrement qui arrive d'un coup. parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne pense pas vraiment que ce soit comme ça que les choses arrivent, et qu'en plus ça a déjà été fait plein de fois. Et donc ça nous amenait vers quelque chose de beaucoup plus progressif, de plus politique aussi, de plus humain, et avec parfois nécessairement des passages qui sont bêtes ou qui sont triviaux, quoi. Quand on parle d'un enchaînement de décisions politiques autour du vaccin et qu'on rajoute une étape avec un footballeur célèbre qui peut pas avoir de vaccin, donc son pays déclare la guerre à un autre. Pour nous, c'est ce genre de petits détails-là qui peuvent faire partie de la vraie histoire, en fait.
Ça, c'est toute la subtilité de Soon. Et François aussi, on le découvre dans Titan, les détails. Mais ils sont moins dans le texte, ils sont plus dans le dessin.
Mm-hmm. Mais en fait, j'adore cet aspect de la bande dessinée, de la création de bande dessinée. Je mets beaucoup de valeur et d'effort dans l'arrière-plan parce que je pense que dans les bandes dessinées, c'est un art qui est très engageante et très immersif pour le lecteur. Et moi, je trouve qu'on peut mettre tous les petits détails dans l'arrière-plan, dans l'environnement, comment quelqu'un vit dans la Lune des Titans. Et donc, je pense que ça, c'est une façon d'ajouter ces choses sans besoin de dire directement, comme tous les chiffres ou tous les détails, ou etc., comme ça. En général, j'adore des environnements avec tous les graffitis, tous les petits déchets, comment quelque chose est magané. Tous ces détails, ça ajoute quelque chose à l'histoire, moi, je trouve.
Ah, mais tellement! Mais comment, François, on dessine la destruction? Ou est-ce qu'il faut s'inventer des monuments déchus? Comment on fait pour dessiner ce qui n'existe plus dans un monde futur?
La destruction, c'est assez facile à dessiner en fait parce que tu peux ajouter comme plein de lignes croches, etc. Et c'est OK, ça marche avec ça.
Je suis assez d'accord avec François quand il dit que la destruction, finalement, n'est pas la chose la plus compliquée à dessiner. Moi, là où j'ai trouvé que c'était complexe, c'est surtout de savoir où s'arrêter. Parce qu'évidemment, quand on se demande comment seront les choses dans 130 ans, la première réponse qui nous vient, c'est « je n'en sais rien ».
Mais en fait, pour plusieurs environnements titans, j'ai inventé plusieurs moi-même, toute seule, mais aussi pour des certains, j'ai travaillé avec un autre artiste que je connais, Brandy Bankert. Elle est scenic designer sur les films et sur les shows de télévision en Los Angeles, aux États-Unis. Je connais depuis longtemps. Et avec elle, j'ai fait comme des certaines collaborations pour des certains espaces. Elle fait comme un genre d'environnement 3D en SketchUp. Et moi, j'ai utilisé ça pour comme développer des idées.
Donc, ça passe par des recherches, des discussions. Moi, j'ai un ami qui s'appelle François Dotto, qui est architecte, avec qui j'ai souvent parlé de ce projet. Je lui demandais sans doute des trucs un peu absurdes, mais comme est-ce que tu penses que dans une zone où il ferait 15 degrés de plus qu'ici, dans une perspective où on consomme pas trop d'énergie, il vaudrait mieux plutôt faire des bâtiments très hauts et avec peu d'emprise au sol, ou très bas mais très large? Il savait pas quoi me répondre, évidemment. Et puis au-delà de ça, j'ai cherché, mais vraiment comme un amateur en fait, pour chaque endroit que Yuri et sa mère visitaient, quelle était la vraie architecture vernaculaire de l'endroit, avec quel type de matériaux on pourrait tenter de construire dans 100 ans si on est sorti du tout béton, si on n'a plus le même accès à des métaux ou à des alliages suffisamment solides. Et ça paraît super savant comme ça, mais pour le coup, je me sens vraiment un bricoleur par rapport à tout ça. Et ça me donnait des directions, en suivant aussi l'envie que j'avais, qui là était juste presque que graphique, de montrer des endroits qui soient pas léchés, mais qui soient plutôt, au contraire d'un bâtiment neuf qui a déjà sa forme définitive, de plutôt concevoir des endroits et des espaces et des villes qui soient comme des stratifications de différentes périodes. Qu'on puisse deviner la ville d'avant sous la ville du futur.
Avec Titan, je pense que le lecteur peut sentir dans un environnement urbain intéressant et réel dans ce livre. Mais c'est intéressant comme quand tu es artiste aussi, BDiste, de faire que tout ça existe sur la page aussi.
Bonjour.
C'est des terrains.
Admin. Bonjour Phoebe, je peux m'asseoir ici?
Admin, vous ne devriez pas être ici.
Écoutez, Phoebe, j'espérais que nous viendrions à bout de nos différends, vous et moi.
Joao, écoutez-moi. Vous devez partir d'ici tout de suite. C'est dangereux. Pour vous et pour moi.
Allons, Phoebe, vous n'êtes pas sérieux, j'espère. Je ne suis pas en danger ici et vous l'êtes encore moins. Je ne vois pas pour...
Hey, qu'est-ce que tu fous ici, Minus? Tu te prends pour qui pour venir nous faire chier pendant qu'on bouffe? Ici, t'es chez nous.
Calme-toi, Alexis.
Où ça, Phoebe? Ça te regarde pas.
C'est assez comme ça, l'ami. Un pas de plus, et tu repars d'ici en civière.
Toi, le flic, tu crois vraiment que j'ai peur de ton petit canon à rayon?
Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. À quoi ai-je pensé en venant ici? Est-ce que je voulais impressionner ces titans avec ma belle ouverture d'esprit? Est-ce que je voulais impressionner une titan en particulier? Tout ce qui va arriver à partir de maintenant sera entièrement ma faute, et tout peut arriver. Il faut que je sois à la hauteur de mes fonctions.
I, rapport de la situation, analyse de sécurité, protocole Alpha.
Fernandez Joseph, lieutenant. Quelques incidents violents enregistrés. Tempérament volatile. Brine Alexis, ouvrier. Membre du syndicat, inconduite. Insubordination. Reconnu coupable de voies de fait graves. Prudence recommandée. Protocole standard. Emploi d'un rayon atténué pour paralyser l'agresseur. Probabilité de réussite, 78%. Niveau de tension des titans, élevé. Probabilité d'une émeute en cas d'application du protocole standard, 87%. Conclusion, probabilité de décès ou de blessure grave de l'utilisateur estimée à 67%. En moins de 20 minutes T. Recommandation, retrait rapide de l'utilisateur.
Je te donne 5 secondes pour te calmer, Brine. Ne m'oblige pas à tirer. Lieutenant Fernandez, syndicaliste Boyle, arrêtez immédiatement. Vous allez tous les deux abaisser votre arme et sortir d'ici. Et n'essayez pas de demander son avis à Johannes Fernandez. Je suis l'admin responsable de cette station. Je vous demanderai d'ailleurs d'escorter l'admin adjoint à l'extérieur.
Monsieur?
Dehors, maintenant.
Il y a un autre aspect qui est très vrai dans Titan et dans Soon, dans vos deux œuvres, c'est la notion de la revendication sociale ou de l'opposition où que tout ne va pas être accepté du jour au lendemain, où il va y avoir des dissidences, il va y avoir des gens qui vont pas vouloir prendre le plan de Soon, par exemple, ou dans Titan, il y a des classes sociales, ça crée des conflits. Pourquoi, François, c'est la trame de Titan? Est-ce que c'est parce que dans le futur... On peut s'imaginer très bien des règlements au niveau du changement climatique, d'une vie dans une autre planète, mais c'est impossible de penser qu'on va régler nos dissidents entre humains.
Oui, peut-être que je suis pessimiste, je ne sais pas. Mais pour moi, ça, c'est une des choses centrales de mon point de vue sur le monde aussi. C'est que tout le monde s'imaginait comme le protagoniste de leur propre histoire. Il n'y a vraiment pas comme des méchants, des vilains qui sont comme contre l'héros, juste pour être contre l'héros, parce qu'ils sont méchants. Chacun a son point de vue, chacun a leur propre politique, leur propre intérêt. Et pour moi, je pense que ça ne va jamais changer parce que c'est juste la réalité. On a des milliards d'humains, chaque humain a maintenant son propre point de vue sur tout et c'est impossible que ces conflits vont disparaître, je pense.
Et si on décrit une société qui n'existe pas en disant que tout le monde est d'accord, immédiatement, c'est louche. Ça va tout de suite ressembler à quelque chose d'un peu autoritaire ou à du lavage de cerveau, enfin l'humanité n'est pas comme ça en fait. Je suis tout à fait d'accord avec François quand il parle des gentils et des méchants. On le voit beaucoup en ce moment quoi. En fait, personne ne suit quelqu'un de méchant et de néfaste juste parce qu'il est méchant et néfaste. Il y a des raisons, il y a des histoires de confiance, il y a des histoires de foi, des idées que chacun porte à sa façon et on voulait ne pas choisir entre le point de vue de Simone qui veut continuer à partir explorer l'espace et le point de vue de Yuri qui pense que c'est une perte de temps. Et c'est une question qui ressemble à plein d'autres questions et qui qui ne peut pas être tranché, en fait. Ça peut que diviser les gens.
Quand on adresse des récits comme ça, futuristes, où on réfléchit, est-ce que c'est difficile de ne pas tomber dans être un peu racoleur ou se coller à une morale ou trop vouloir conscientiser le lecteur? Est-ce que c'est des choses que vous avez réfléchies en écrivant vos œuvres?
Je pense que c'est pas juste une tendance aux science-fiction non plus. Je pense qu'on est un mini-tendance dans la littérature en général maintenant de faire un genre de moralisme. Je pense que beaucoup des gens veulent que des personnages sont des gens qui sont des exemples à comment vivre dans la vie. Et pour moi, ça, c'est pas du tout intéressant et c'est beaucoup plus intéressant de juste présenter des gens, comment des gens vivent. Je pense que science-fiction a vraiment cette capacité de faire une réflexion à notre vie. Et j'espère que, pour moi, c'est vraiment plus intéressant si ça, c'est pas une réflexion où tout est expliqué.
Avec cette base d'histoire, quand même, qui était assez ancrée au réchauffement climatique, à une vision quand même politique de l'évolution des sociétés dans lesquelles on est, on avait vraiment peur de tomber dans un catéchisme insupportable, en fait. On s'est vraiment attelé à faire en sorte que ce soit toujours le récit et les histoires des personnages qui soient le moteur de tout ça. Et on a fait très attention à la façon dont les choses ont été dites, la façon dont elles étaient présentées, à pas passer pour des profs d'histoire ou des profs de morale qu'on n'est pas, quoi.
Est-ce que c'est le rôle de l'artiste de préparer l'humanité au futur?
Malgré sa réputation, science-fiction en général, c'est pas très bien pour faire des prédictions. Chaque année, je réalise plus en plus que des choses peuvent arriver que je n'ai pas prévues, pas du tout. Et je pense que c'est très important pour des artistes, pour des auteurs de bande dessinée, de continuer à utiliser notre imagination pour rêver, pour créer des visions sombres, mais aussi de temps en temps peut-être optimistes ou révélateurs dans un sens, pour que des gens puissent avoir cet point de vue sur l'avenir, parce que c'est très important que des gens créatifs aient une main sur diriger l'avenir aussi.
François Benjamin, merci infiniment d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci.
Pour poursuivre la ligne de fond autour des œuvres de Benjamin Adam, je vous invite à découvrir son album Joker, qui démontre toute la créativité de l'auteur. Si vous voulez continuer dans ses réflexions sur le futur, il y a aussi l'immense album surdimensionné UOS, un assemblage d'images sans texte qui présente un monde dévasté. Du côté de François Vigneault, il faut mettre la main sur sa nouvelle série Ark in Space et le premier tome de l'album 13e Avenue avec Geneviève Peterson, qui témoigne de toute sa sensibilité pour les histoires profondément humaines. Ligne de fond est un balado du Festival de BD de Montréal, rendu possible grâce au financement de la SEDEC et du Consulat de France. À l'animation et au contenu, c'est moi, Catherine Emmanuelle Brunet. Je remercie les comédiens pour les mises en lecture, Jérémy Desbiens et Marie-Laurence Boulet, ainsi que l'équipe de production de Récréation, le réalisateur Francis Thibault, la productrice Élodie Gagnon et la coordonnatrice Élisabeth Dufault, tous et toutes de grands lecteurs et lectrices de bande dessinée. Merci de nous écouter. À bientôt!